Essayer de... C'est pas très correct de m'avoir rappelé le mandat, parce que, comme je ne l'ai pas du tout respecté...
Mais c'est pour mettre en valeur votre liberté et la confiance que nous avons en vous.
Je vais quand même essayer d'improviser, donc sur le thème de la confiance. Finalement, mon intervention aujourd'hui sera... J'en suis très heureux... finalement assez bien relié à un certain nombre d'interventions qui ont déjà eu lieu. Je vais diviser mon intervention en deux. Dans un premier temps, je vais revenir sur le statut de la confiance en économie. Ça te permettra non pas d'éclairer tellement sur le concept de confiance, puisque vous avez eu des conférences par des spécialistes du sujet, mais simplement pour essayer de revenir sur la manière dont l'économie aborde cette question-là. Et puis ensuite, je reviendrai sur l'approche en fait contractuelle de la confiance en économie, et j'essaierai d'illustrer comment elle peut aider à comprendre la construction de dispositifs institutionnels. La confiance en économie, le thème de la confiance en économie est un thème récurrent. On l'a beaucoup utilisé. Il a été un concept pervasif dans l'économie parce que, au fond, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, il y a un accord parmi les économistes sur le fait que le développement économique est lié à des institutions qui sécurisent, qui permettent le développement du commerce, etc., etc., et d'une manière plus générale, en fait, des institutions qui créent un cadre dans lequel, en fait, une division sociale du travail peut s'organiser. Cette division sociale du travail permet d'améliorer la productivité, etc., etc. Et donc on va traduire ce terme générique par une idée de confiance, etc., qui va être apportée par les institutions et qui va permettre à une société de confiance de fonctionner, etc. Et puis il y a eu aussi il n'y a pas eu beaucoup de réflexions beaucoup plus approfondies sur cette notion-là. Et puis par ailleurs, il y a une vingtaine d'années maintenant, il y a eu un espèce de buzz, comme on dit aujourd'hui, très important en économie, mais aussi en management, en gestion, en français, autour de la notion de confiance, et qui était notamment appliquée à l'analyse des relations inter-entreprises. Et en fait, ce développement de la réflexion sur la confiance dans les relations inter-entreprises, dans les relations entre agents économiques, était présenté un peu comme un étendard contre quelque chose qui se développait, contre un courant d'analyse qui se développait, qui était l'analyse micro, voire nano, des relations entre les agents économiques à travers la notion de contrat, et qui insistait beaucoup sur les systèmes de garantie mutuelle qui sont établis par les agents économiques qui prennent des engagements réciproques, ces engagements étant soit garantis, soit pas garantis par des cadres institutionnels, mais on a beaucoup développé l'analyse des contrats en économie depuis en gros le début ou le milieu des années 80, et c'est à ce moment-là en fait que le concept de confiance est beaucoup ressorti, parce que au fond un certain nombre de gens ont dit les contrats c'est bien joli, mais les contrats sont des instruments destructeurs de confiance. Et donc effectivement il y a un certain nombre de travaux qui ont rappelé des choses que nous connaissons un peu dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que on peut se coordonner avec notre voisin, nos enfants, etc. Enfin, des gens avec qui on a des relations sociales intégrées par ailleurs, hein, dans des réseaux, on est intégré dans des réseaux sociaux, etc. Et puis, si on commence à sortir un contrat dans le cadre de ces relations, en fait, ce qu'ont mis en évidence un certain nombre d'études sociologiques notamment, mais qui ont été beaucoup reprises par des études en sciences de gestion, ça a été de mettre en évidence le fait que lorsqu'on sortait un contrat dans ce genre de contexte, eh bien ça avait plutôt tendance à détruire la confiance et à induire en fait plutôt un cercle vicieux de méfiance, puisque si on cherche à se protéger, etc., etc. Alors ça a été beaucoup utilisé pour essayer de décrire les raisons pour lesquelles il y avait des échecs au développement de comportements coopératifs dans un certain nombre de contextes, dans le contexte des relations d'affaires en général, etc. L'autre exemple aussi, évidemment, qui montre souvent que il y a des outils qui sont soi-disant créateurs de confiance qui peuvent détruire la confiance, c'est tout simplement d'invoquer la confiance, hein, fais-moi confiance. Vous connaissez le dessin animé du Livre de la Jungle, hein, où il y a le serpent, je ne sais plus comment il s'appelle, qui dit fais-moi confiance, etc. Bref. Et donc effectivement, quand on commence à invoquer la confiance, on commence à invoquer, en fait, il faut évidemment prendre ces gens à son coup et en tous les cas être aux aguets. Alors en fait, ce débat avait un intérêt certain, mais quand même limité, parce que pendant très longtemps, il s'est simplement contenté d'opposer un peu deux camps, un camp qui mettait en évidence le fait qu'on avait besoin de contrats pour sécuriser les relations, on avait besoin de cadres institutionnels qui mettaient en place des systèmes de représailles en cas de manquement aux obligations réciproques, et puis pour développer justement la coopération entre agents économiques, et puis d'un autre côté, des gens qui disaient, mais au contraire, si vous mettez en évidence, si vous sortez des contrats, si vous reposez sur les dispositifs institutionnels, en fait, implicitement les dispositifs institutionnels formels, vous détruisez la confiance, etc. etc. Et donc, en fait, petit à petit, les choses ont évolué et on a essayé de réfléchir, en fait, à un certain nombre de questions qui sont déclinées ici. La première question, c'est est-ce que la confiance et le contrat sont des substituts ou des compléments? Alors, j'utilise contrat, vous pourriez aussi utiliser institution, on y reviendra tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais me contenter de contrat. Donc, est-ce que la confiance et le contrat sont des substituts ou des compléments? Est-ce que la confiance... Alors, ça, c'est une première chose. Hein, alors, évidemment, la réponse, c'est que c'est plutôt des compléments, évidemment. La confiance est exogène ou endogène? C'est-à-dire, est-ce que la confiance est quelque chose qui émane de quelque chose d'extra? Alors là, on est dans les relations économiques. Donc, en dehors des relations économiques, donc notamment... implicitement, évidemment, c'est les réseaux sociaux qui sont invoqués, hein. Ou l'alliance, hein, l'alliance politique, hein, si vous voulez, ou est-ce que c'est endogène, c'est-à-dire est-ce que c'est dans le cadre de la gestion de relations économiques, dans le cadre de la construction de dispositifs de coordination par les agents économiques qu'on va générer la confiance, etc. Et puis, le dernier, et évidemment, petit à petit, il a été évidemment mis en évidence qu'on est plutôt du côté de l'endogène. Hein. Et puis, la dernière chose, c'est est-ce que la confiance, c'est un calcul ou un pari? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à dépasser un peu ces approches qui consistaient à opposer confiance et contrat, institutions et réseaux sociaux, par exemple, hein, ou institutions formelles, ou droits... Et institutions informelles et réseaux sociaux, eh bien, on a l'idée que, effectivement, la confiance est un sentiment, une croyance qui naît entre des individus, donc de la perception, en fait, du comportement de l'autre dans le futur, hein, j'y reviendrai dans quelques instants. La question fondamentale, c'est est-ce que c'est un sentiment qui naît d'un calcul, donc est-ce que en fait c'est un simple calcul de probabilité sur le comportement de l'autre qui va donner la confiance, hein, la confiance étant simplement une certitude, hein, de comportement, et donc le degré de confiance étant un degré d'incertitude, etc. Ou est-ce que c'est un pari, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va dépasser le calcul, qui va consister à se projeter, à penser que précisément en changeant, en accordant par exemple de la confiance ou en construisant des dispositifs qui visent à construire de la confiance, on va changer en fait le calcul de probabilité, en fait, d'une certaine manière. On va changer la perspective des deux acteurs, on va changer leur manière rationnelle de concevoir leur relation. Alors, Ces débats que j'ai brossés très très rapidement, en fait, on peut y revenir un tout petit peu plus se poser un peu une question provocante pour les organisateurs de ce séminaire. Est-ce que, en fait, en tous les cas en économie, est-ce que la notion de confiance c'est un concept utile? Et mon argument, c'est que non, en général, c'est pas un concept très utile, la confiance, parce que c'est un concept trompeur. Il y a autour de la confiance, en fait, autour de du mot confiance. D'abord, c'est un mot ou un concept polysémique, hein, comme vous le savez. Et puis, surtout, en fait, il y a beaucoup d'idéologies autour de ça. La confiance, c'est bien. La méfiance, c'est pas bien. Enfin, des choses comme ça. La confiance, c'est bien. Le réseau social, c'est bien. Le droit, les institutions, tout ça, c'est douteux. Bon, bref. Sans parler du politique, puisqu'on vient de citer Sarkozy à 40 reprises. Enfin, je pourrais en citer d'autres. Hein, bon, c'est Sarkozy qui a été cité. L'idée, la confiance, souvent, c'est un concept pas très utile, et notamment lorsqu'on oppose la confiance à d'autres logiques de coordination. En revanche, ça me semble un concept assez, qui peut aider à concevoir, justement, qui est un concept utile à penser pour essayer de concevoir, en fait, la question de la gouvernance. Et donc, aujourd'hui, je reviendrai un petit peu sur la gouvernance contractuelle, un peu plus sur la gouvernance institutionnelle. Alors, bien entendu, hein, tout ça... Je sais bien que la confiance existe dans les relations interindividuelles, etc. Mais la question fondamentale, c'est lorsqu'on essaye de penser le fonctionnement des sociétés, et notamment bon, pour les économistes de l'économie, les économistes pensant en général, et pour des raisons que je vais justifier tout à l'heure, à la fois l'économie et le politique, est-ce que la notion de confiance est utile en tant que telle? Moi, je prétendrais que c'est en fait un concept assez utile pour essayer de comprendre, enfin comme un produit intermédiaire, en fait, pour essayer de comprendre comment se construit, en fait, effectivement, ce qu'on appelle la confiance institutionnelle, ou etc., etc. Ou plus exactement, ce qui fait que les agents économiques et les acteurs sociaux, d'une manière plus générale, joue en fait sur plusieurs logiques de coordination et utilise plusieurs dispositifs de coordination aux logiques différentes qui se complètent, qui ont des complémentarités les uns avec les autres pour se coordonner, mener la vie économique, etc. Et c'est ce qui explique ce à quoi s'intéressent les économistes. In fine, ce sont les performances économiques, mais comme les économistes ont une notion très générale de performance économique, ça peut expliquer bien d'autres choses d'une certaine manière sur le social. Alors, quand je disais tout à l'heure que la confiance est un concept flou et un peu polysémique, il suffit de citer un peu un certain nombre de choses sur l'idée que ça renvoie à la fois à des capacités, aux comportements, aux intentions. Elle peut être interpersonnelle, institutionnelle, elle peut être systémique, elle peut être interorganisationnelle, etc., etc. Alors, bon, moi je vais m'en tenir en fait à une définition qui est la définition que retiennent souvent les économistes, qui est en fait l'idée que la confiance, finalement, c'est une conjecture à propos du comportement de l'autre, des autres bien entendu, et cette conjecture, elle est notamment liée à ce qu'on croit qui va se passer, ou au pari qu'on fait sur ce qui va se passer, lorsqu'on va tomber un peu dans les zones non écrites du contrat, que ce soit le contrat interindividuel ou le contrat social. Donc l'idée, c'est que là, au lieu d'exploiter les failles du contrat ou les zones non écrites du contrat pour me nuire, l'idée, c'est que je fais le pari, quand j'ai confiance dans le partenaire, je fais le pari que ce partenaire, en fait, va se comporter de manière coopérative, c'est-à-dire qu'il va préférer l'intérêt collectif à l'intérêt strictement individuel. Donc, c'est pas une définition révolutionnaire, hein, c'est une définition un peu usuelle, mais c'est ça. Alors, et l'intérêt fondamental de ça, alors notamment lorsqu'on envisage par exemple un contrat, hein, c'est que bah, ça permet, si on arrive à s'installer dans une relation dans laquelle il y a de la confiance, eh bien on va pouvoir éviter de recourir à des mécanismes formels et permanents de négociation, d'interaction, bon je vais faire ça, attention je vais faire ci, enfin, etc. Est-ce que tu es bien d'accord pour que je fasse ci, enfin, etc. Et on va laisser l'autre prendre des initiatives, donc des innovations vont être possibles. Et évidemment, le problème, c'est qu'une innovation, ça ne réussit pas toujours. Il y a une action non prévue. Si in fine elle me nuit, est-ce que c'était une action délibérément opportuniste contre laquelle il faut que je prenne des représailles, ou est-ce qu'au contraire, il faut que je passe cela par pertes et profits et que je continue à construire la relation. Donc voilà un peu l'idée qui a derrière cette idée de confiance en économie. Alors en fait, après, ça va se décliner, on va voir de manière assez différente. Alors finalement, la question, c'est dans quelles circonstances puis-je avoir confiance et comment je peux interpréter le comportement d'autrui avec des questions assez compliquées, hein. Puisque, évidemment, je ne connais pas les intentions d'autrui, je peux difficilement les mesurer, les prévoir, les prévenir, les contrôler. Je ne vois que les actions, et encore pas forcément, et je vois éventuellement le résultat des actions, enfin, etc., etc. Et donc, comment on peut produire cette confiance voilà. Alors, je vois que je perds beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller encore plus vite que je ne le fais, ce qui est... excusez-moi. Non, mais il y a des choses qui ont déjà été écrites, donc vous pourrez le retrouver. L'idée quand même, c'est que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre au fond pourquoi peut émerger ce sentiment de confiance dans l'autre. Alors, les facteurs de confiance, c'est d'abord qu'il y a un intérêt mutuel, c'est-à-dire que effectivement, l'autre n'a pas intérêt à me trahir. Bon, donc dans le cas où il y a un intérêt mutuel, effectivement, la confiance se génère assez facilement. Ensuite, il y a toutes les situations d'équilibre de la terreur, c'est-à-dire, en fait, les situations où l'autre sait que je peux exercer des représailles très fortes contre lui, soit parce que je détiens un otage, hein, donc je peux lui nuire fortement. Il y a de multiples façons de détenir des otages sur l'autre, soit parce qu'on est dans un jeu répété et à l'infini, ou de manière incertaine, hein, l'autre sait que je vais pouvoir exercer des représailles au coup suivant, et donc il n'a pas intérêt à me trahir, etc. Bon. Alors, en fait, vous allez me dire, dans ces deux cas-là, est-ce qu'on peut parler de confiance ? Bah, d'une certaine manière, si je ramène au cas précédent, oui, hein, enfin à la définition de la confiance, oui, c'est-à-dire ma confiance, j'utilise ça comme un terme, un peu un concept intermédiaire, hein, et j'utilise ma définition de tout à l'heure où je dis que c'est une conjecture à propos du comportement de l'autre. Oui, je peux prévoir le comportement de l'autre dans ce genre de situation. La seule chose éventuellement que je ne peux pas bien prévoir, c'est si je ne connais pas sa compétence, effectivement il va peut-être faire des erreurs. Et ça, c'est un problème souvent qui n'est pas tellement traité, j'ai envie de dire, en économie, et tout simplement parce que 98% de l'économie repose sur l'idée qu'on étudie en premier rang des relations entre agents rationnels. Et donc, mais évidemment, dans la vie courante, ça compte beaucoup, hein, le fait qu'on ait affaire en face éventuellement un agent irrationnel ou moins rationnel que soi, ou ayant une rationalité différente, etc. Et que effectivement, je ne peux pas forcément anticiper en fait ce qu'il va faire, puisque en fait je n'arrive pas à me mettre dans sa tête au fond. L'équilibre de la terreur, ça peut s'étendre, hein, c'est l'équilibre de la terreur mutualisée, donc c'est en fait quand il y a des dispositifs, soit de type informel, soit de type formel, qui vont exclure du jeu social, punir celui qui trahit. Les économistes se sont beaucoup intéressés aux conditions dans lesquelles ces mécanismes fonctionnent, hein, parce que en fait, dès qu'on passe à de la genèse collective de la confiance, effectivement, beaucoup de choses vont compter, notamment le fait que, bon, quand je suis dans une relation bilatérale, effectivement, j'ai intérêt à punir théoriquement mon partenaire s'il m'a trahi. Effectivement, j'ai intérêt à le punir au coup suivant, parce que j'ai intérêt. Et en fait, le problème, c'est que j'ai pas forcément. Au coup suivant, en fait, théoriquement, une fois qu'il m'a trahi, j'aurais pas forcément intérêt à le trahir, à le punir, parce que ça me coûte de le punir. Mais en fait, j'ai intérêt à le punir parce que, notamment si on est dans une situation de jeu répété, j'ai intérêt à le punir parce que ça entraîne la crédibilité de la représaille et donc il va anticiper que... Bref. Donc ça a été assez bien analysé, notamment par Axel Rod, hein, sur les bonnes stratégies dans des types d'interactions répétées, les bonnes stratégies à la fois, pour générer ce qu'on appelle la confiance dans ce genre de cas, c'est-à-dire l'émergence de comportements coopératifs, y compris dans des situations très compliquées. Mais dès lors qu'on passe à du collectif, ça devient beaucoup plus compliqué parce que les autres agents, en fait, ils n'ont pas forcément intérêt à punir quelqu'un parce qu'il m'a trahi. Enfin, donc il y a A, B et C. A a trahi B. Est-ce que C a intérêt à punir A ? Ben non, parce que ça lui coûte, etc. Donc C va punir A si et seulement si, en fait, il y a des mécanismes qui fait que C va être considéré comme un traître au même titre que A. Si il ne punit pas A. Et donc ça suppose que il y a un partage de l'information, ça suppose que les capacités de représailles soient généralisées dans la collectivité, etc., etc. Et plus on a des collectivités étendues, plus les liens sont distendus, etc., moins ça fonctionne. Et donc à ce moment-là, plus il faut institutionnaliser la représaille, mais à ce moment-là, et donc avoir des agents de police, des juges, etc. Mais à ce moment-là, il faut que ceux-là aient aussi les bonnes incitations à le faire et qu'ils aient accès à l'information, etc. Et on passe donc à la gouvernance collective, hein, qui est effectivement l'élément qui permet de garantir en fait la confiance, hein, donc enfin qui sont les qui est le quatrième stade en fait du développement d'outils, hein, pour générer de la confiance. Alors, ça va faire qu'il va y avoir trois types de confiance qui vont s'emboîter les unes dans les autres. Hein. Y a la capacité de prévoir le comportement d'autrui, il y a le pari sur l'avenir qui fait qu'on va être capable de prévoir le comportement d'autrui compte tenu en fait de la probabilité d'occurrence de représailles, pour le dire comme ça. Ça pourrait être aussi des récompenses, hein, de représailles ou de récompenses dans l'avenir, et de la réaction de cet autrui aux représailles et aux récompenses. Et là, on est déjà plus sur le pari, parce que si on n'est pas dans un monde où tout est calculable, eh bien, il faut faire, donc il faut parier que effectivement, les agents vont préférer des résultats positifs incertains à des résultats négatifs aussi incertains. Un des moyens de générer ce genre de choses, hein, ça va être notamment de rendre les résultats négatifs très très négatifs. Donc même s'ils sont incertains, quand vous trahissez, donc c'est ce qui se passe dans la mafia, hein, bon, ok, quand vous trahissez la mafia, vous ne vous faites pas nécessairement descendre parce que vous pouvez être protégé par la police, etc., etc. Vous pouvez changer d'identité, partir très loin, j'en passe et des meilleurs. Mais quand ils vous prennent ou quand ils prennent vos proches, etc., la représaille est très très coûteuse. Non seulement vous mourrez, mais en plus vous souffrez, etc. Puis éventuellement on fait souffrir toute votre famille, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc effectivement, là on a une bonne logique pour instaurer de la confiance à travers l'idée que les individus vont faire le pari de la non-trahison, etc., etc. Et puis, on a donc la confiance systémique qui suppose que, en fait, dans l'idée de confiance systémique, effectivement, on va avoir confiance non pas dans l'individu, mais dans le système dans lequel est inséré l'individu. Alors, j'ai 40 minutes, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Donc j'ai plus que 15 minutes, c'est ça ? Donc. Bon, alors je vais maintenant passer à la manière dont un peu ce genre de choses peut s'opérationnaliser pour penser les contrats puis les institutions, et je vais venir très rapidement en fait sur les institutions. Sur les contrats, je vais simplement montrer que l'idée d'endogénéisation du sentiment de confiance à travers la construction d'un mécanisme contractuel est quelque chose qui est intéressant pour comprendre, en fait, dans le cadre notamment d'une théorie de l'action, pour comprendre, en fait, la manière dont doit être manipulé un contrat. Cette analyse repose notamment sur beaucoup d'analyses empiriques qui ont été faites sur la manière dont se construisent les relations d'alliance entre firmes. Alors pourquoi c'est intéressant d'étudier les relations d'alliance entre firmes quand on veut parler de confiance, etc. Parce que ça n'a aucun intérêt de parler de confiance quand vous êtes en train de parler des relations entre les membres d'une même famille. C'est un grand intérêt, bien entendu, mais d'un point de vue analytique, ça n'a pas grand intérêt, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui construisent les relations entre les membres d'une famille, d'ailleurs loin d'être uniquement des choses de confiance, d'ailleurs. Lorsque vous prenez des relations entre firmes, bon, a priori, et notamment des relations entre firmes multinationales, etc. Bon, vous pouvez vous dégager un peu de toutes les explications où, en fait, la confiance vient des réseaux sociaux. Et puis, d'un côté, il y a les réseaux sociaux. D'un autre côté, il y a les logiques économiques. Et puis, elles s'intègrent, elles interagissent un peu les unes avec les autres. Ici, en fait, vous avez souvent des réseaux sociaux relativement faibles à la base de ces relations entre entités, parce que elles sont... Dans des espaces justement socio-économiques relativement différents souvent, etc. Et donc vous pouvez vous abstraire un peu de l'idée que bon, il y avait au préalable des réseaux sociaux, et qu'en fait on a construit des contrats juste pour compléter un tout petit peu les effets des réseaux sociaux. Et en fait, ce qui se passe justement dans les relations interfirmes, ce qu'on observe souvent, c'est que les contrats sont utilisés vraiment comme des constructeurs de dispositifs qui vont générer ce qui intéresse les firmes. C'est pas tellement la confiance, c'est la coopération, et c'est des comportements coopératifs entre elles. Et c'est très important dans les alliances, puisque les alliances se construisent autour de projets d'innovation, et ces projets d'innovation, par définition, ils sont mal connus au départ. Et on ne sait pas exactement quelle technologie on va finir par développer, on ne sait pas quand elles vont être mises au point. On ne sait pas sur quel type de marché ça va arriver, et notamment on ne sait pas quel sera l'état de la concurrence au moment où ça arrivera, etc. Donc, on ne sait pas très bien quel torchon et serviette on va mettre dans l'alliance, ni quelle carotte et pomme de terre on va en ressortir, et c'est très difficile, donc, dans ces conditions-là, de construire un contrat complet qui va stipuler à l'avance tout ce que devront faire chacune des parties et tout ce qu'elles retireront de la coopération, ce qui permettrait d'établir un espèce de contrat d'échange un peu standard. En fait, on est dans un projet qu'on ne connaît pas complètement, etc. Alors souvent, vous constatez toujours, en tout cas très fréquemment, que quand les entreprises se lancent comme ça dans des alliances, souvent elles annoncent cela largement dans la presse. Alors là, la nouvelle alliance entre telle grande firme et telle grande firme, il y a en permanence ce genre de choses annoncées dans la presse. En fait, elles signent des contrats. Et souvent, ces contrats, quand vous les regardez au départ, sont des contrats où il n'y a rien dedans. Il y a 4 pages, il y a juste Microsoft qui dit qu'il va collaborer avec tel constructeur d'ordinateurs, ou tel constructeur de puces, ou etc., ce que vous voulez, dans tel domaine. Mais c'est extrêmement, extrêmement flou. Et vous allez me dire, mais ça, c'est ce qu'il y a dans le journal. Oui, mais il y a exactement la même chose dans le contrat. Au fond, ils ne savent pas très bien pourquoi ils vont coopérer, ils ont quelques idées en tête, mais justement, ils ne connaissent pas le détail des projets de recherche et développement des uns des autres. Ils ont une idée relativement vague du marché, et tout ça, d'autant plus que le projet est très innovant. Hein. Évidemment, quand on est dans des phases ultimes de développement, on est dans du simple contrat un peu standard de prestation de service. Mais quand on est dans des phases très amont, sur des grands projets innovants, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire. Et donc, en fait, le contrat sert à simplement, c'est un peu comme le mariage dans nos sociétés, hein, ça sert à juste dire, hey, les gars, on va coopérer, regardez, on engage notre nom dans un processus de coopération, etc. Et en fait, la signature même du contrat est un engagement à coopérer, qui est en fait un gage. On engage un peu sa réputation dans le truc, enfin dans la coopération, ce qui fait que ça commence à générer du côté de l'autre l'idée que la rupture aurait un coût, hein, parce qu'on atténuerait son capital de coopération future. Et donc, c'est bien, si on engage cette annonce, c'est bien qu'on a envie de coopérer, etc. Et donc, l'autre peut venir et faire la même chose, peut prêter une certaine confiance à l'autre partie et commencer justement à lui révéler quelques éléments de ses secrets industriels, de ses programmes de recherche en cours, etc., etc. Ce qui permet aux deux parties d'initier une phase de négociation où ils précisent le projet, ils échangent des informations, etc., etc. Et en fait, ensuite, pour maintenir ce sentiment, il faut qu'en permanence se construise le contrat en même temps qu'il va y avoir évolution du projet, développement du projet, il va y avoir développement du contrat. En fait, on va négocier le contrat en parallèle au développement du projet. Et on peut le faire parce que, évidemment, on connaît de mieux en mieux ce vers quoi on va. Et donc, du coup, on peut commencer à écrire des contrats. Mais en fait, le contrat suit le développement du projet. Et il sert simplement à dire, regardez, je vous donne de plus en plus d'éléments qui me lient les mains avec vous et qui font que si on devait rompre, eh bien ça serait coûteux, on aurait des dommages à payer, enfin, etc., etc. Et donc et on a pris des engagements de plus en plus formels, etc. Et donc en fait ici on a un processus dans lequel le contrat sert à construire la confiance, et ça permet d'expliquer ensuite un certain nombre de propriétés des contrats qui doivent être construits. Notamment, par exemple, une des propriétés de ces contrats, c'est qu'ils doivent avoir des dispositifs pour signaler à quel moment, en fait, on va cesser d'avoir la volonté de coopérer, par exemple. Donc, ces contrats doivent inclure des clauses où on peut mettre fin de manière correcte à la coopération, de manière à éviter que la seule solution soit la trahison, au fond, des choses comme ça. Yeah. Alors, si j'avais 2 heures de plus, on pourrait s'amuser à faire un parallèle, par exemple, avec le contrat de mariage, enfin, ou la relation de mariage, si vous voulez, hein, mais il y a quand même des parallèles à construire qui sont assez amusants et qu'on peut très bien imaginer. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est passer maintenant à la question des institutions, parce que il me semble que la réflexion sur les institutions ne doit pas être complètement indépendante de cette réflexion sur les contrats. Alors pour plusieurs raisons, mais d'une part parce que les dispositifs institutionnels qui garantissent les contrats, ce qui garantit les contrats in fine, c'est les dispositifs institutionnels qui par ailleurs canalisent les comportements. Et par ailleurs, comme je vous l'ai rappelé au départ de mon intervention, en économie, on insiste beaucoup sur le fait que, effectivement, les structures institutionnelles, d'une manière générale, sont des éléments essentiels qui génèrent la confiance et de la sécurité et qui permettent, en fait, le développement économique. Pour aller vite, le développement, la croissance, etc. Et beaucoup de gens pensent aujourd'hui, beaucoup d'économistes pensent aujourd'hui que les différentiels de performance entre, par exemple, le pays, mais on pourrait prendre entre régions, etc., s'expliquent très largement, en fait, par la qualité des institutions, parce que les institutions favorisent ou non le développement économique. Beaucoup d'économistes essayent de penser ces questions-là, et effectivement, donc, il y a eu beaucoup de développement au cours de ces dernières années autour de cette question. Et moi, je voudrais insister aujourd'hui ça durera pas les 6 minutes qui me restent, ça durera un tout petit peu plus, je suis désolé. Je voudrais insister aujourd'hui, en fait, sur un des éléments qui fondent en fait la confiance, enfin qui fondent la qualité institutionnelle et in fine la confiance que les individus peuvent avoir dans les institutions. Et en fait, je vais insister beaucoup sur l'opposition privé-public en essayant de fonder d'abord la notion d'institution publique versus institution privée, et en expliquant in fine que aujourd'hui, effectivement, un certain nombre d'éléments de la crise de confiance qu'on a dans les systèmes institutionnels est lié en fait à ce flou qui existe aujourd'hui autour d'institutions publiques et privées, et je vais essayer de le lier en fait à la difficulté de construire des cadres institutionnels publics au niveau international. Alors, pour ce faire, je vais être obligé de faire un petit détour analytique, mais rassurez-vous, c'est lorsque les économistes font de l'analyse, en fait, souvent, ils redécouvrent la poudre qui a été largement découverte avant eux par l'ensemble des autres sciences sociales. Donc ça va très vite revenir à des choses très familières. En fait, les économistes, en fait, la grande révolution en économie, de mon point de vue, au cours une des grandes révolutions, peut-être pas la grande révolution, mais une des grandes révolutions en économie autour des 20 dernières années, ça a été de penser la production des systèmes institutionnels comme en termes économiques, c'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose qui a un coût et qui a des bénéfices. Et d'ailleurs, ici, dans cette université, vous avez l'un des grands représentants de ce courant d'analyse, qui est Jean-Philippe Plateau, hein, qui est vraiment l'un de ceux qui a beaucoup contribué au développement de ces théories au cours des deux dernières décennies, ou trois dernières décennies. Alors, au fond, on peut résumer les choses comme ceci. La gouvernance et la gestion des interactions entre les agents économiques à travers des droits et des règles, la construction de droits et de règles. Établir des droits et mettre en œuvre des règles, ça fournit des bénéfices parce que ça fournit un ordre dans lequel les agents peuvent développer leurs activités économiques. Donc, par exemple, permet de sécuriser les droits de propriété, les transactions entre agents économiques, et donc ça permet une certaine division sociale du travail qui permet d'augmenter la productivité, par exemple, pour faire simple. Mais il y a d'autres problèmes, il y a la gestion des biens publics, ça c'est le grand domaine de Jean-Philippe Plateau, enfin, etc., etc. Donc il y a la gestion commune des ressources, plus exactement, etc., etc. Bon, et en fait, produire des règles et les mettre en œuvre, ça a un coût, on appelle les coûts de transaction. Et donc on va comparer les coûts et les bénéfices, au fond. Lorsqu'on en vient à la question de... ensuite, on va comparer plusieurs façons de produire des règles et des coûts. Il y a plein de façons de comparer les façons de produire des règles et des coûts. On peut, par exemple, essayer d'analyser s'il est plus intéressant de produire des règles et des droits de manière centralisée ou décentralisée, etc. etc. Une des façons, c'est d'essayer de penser l'opposition public-privé. Et ça va se faire à partir d'une idée d'opposition entre deux types de délégations, puisque au fond, lorsqu'on va établir des règles et des coûts, lorsqu'on va établir des règles et des droits, souvent on va déléguer, les agents vont déléguer le droit de définir des règles et des droits, enfin, et de les mettre en œuvre, à un tiers. Alors ce tiers, ça peut être un individu, ce tiers, ça peut être un collectif, ça peut être justement le collectif des agents. Ou ce tiers, ça peut être une organisation. Bon. Pour l'instant, je ne m'intéresse pas à savoir si c'est un individu, etc. C'est un agent tiers qui agit pour le compte des individus. D'accord. Délégation à une communauté, bon, c'est simple. C'est la communauté villageoise, le conseil des anciens, enfin, tout ce que vous voulez. Hein. Délégation à un individu, évidemment, on pense tout de suite au souverain, quel qu'il soit. Et délégation à une organisation, on pense tout de suite à l'État potentiellement. Mais en fait, justement, on va voir que c'est pas nécessairement l'État ni le souverain, etc. En fait, donc, on va déléguer des droits à ce qu'on appelle un régulateur. Alors, en fait, il y a deux types de délégations. Il y a des délégations qu'on va qualifier de fortes et il y a des délégations qu'on va qualifier de faibles. Alors, la qualification de forte, en fait, c'est l'idée qu'on va donner une autorité très étendue sur un grand nombre de domaines, et on va donner à celui qui délègue, enfin qui obtient la délégation, des droits à la fois de mesure, c'est-à-dire de définition des droits, de redéfinition des droits et des règles et des droits de mise en œuvre. Alors qu'une délégation faible, ça consiste au contraire à donner une autorité limitée, donc sur une autorité sur un domaine limité, sur des domaines d'action limités, et on va essayer souvent de séparer tout ce qui est redéfinition de droit, ou même des fois on ne va pas du tout donner de capacité de redéfinir les droits et les règles, et de mettre en œuvre les règles, etc. Donc on va éventuellement séparer la mise en œuvre du reste. Et donc ça nous donne un continuum. D'un côté, vous avez une délégation forte, donc la délégation la plus forte, c'est vous déléguez tout, en fait. Et puis, alors, le principal risque, le principal intérêt de la délégation forte, c'est-à-dire vous déléguez tous les droits de définir des règles collectives à un individu, c'est que, en fait, enfin une entité plus exactement, c'est que en fait vous allez gagner en efficacité. Cette entité va se spécialiser dans la définition des droits, elle va être la seule détentrice de l'autorité, donc elle aura une capacité de mise en œuvre très forte de ses droits et de ses règles. Vous avez affaire qu'à une seule entité, donc ça limite les coûts de transaction, etc. Évidemment, le principal inconvénient, c'est que si vous donnez beaucoup de droits de définition de droits à cette entité et beaucoup de droits de mise en œuvre, eh bien, elle peut utiliser ces droits contre vous pour vous capturer. Et donc, en fait, vous allez hésiter. Donc, il y a un coût pour vous qui est le coût, qui est un double coût. Un coût immédiat, c'est qu'éventuellement, cette entité va capturer votre richesse, quelle qu'elle soit, quelque chose à long terme, c'est qu'elle va capturer votre liberté, elle va vous empêcher de renégocier ses droits dans le futur, etc. À l'inverse, évidemment, si on choisit des délégations faibles, eh bien, le problème, c'est qu'on va multiplier les entités avec lesquelles on va déléguer des droits de définir un ordre collectif. Donc, ces entités auront des faibles droits, donc une faible autorité, donc une faible capacité à implémenter cet ordre collectif, etc. Et donc, in fine, le problème, c'est que les droits qui seront définis ne seront pas forcément des droits opposables à des tiers, ni à des tiers participant à la même communauté que vous, ni à des tiers, donc ayant passé le même contrat avec cette entité, ni à des tiers externes. L'avantage, évidemment, de l'autorité, de la délégation forte, c'est que les droits sont fortement opposables en interne, vis-à-vis de tous ceux qui ont passé le même contrat entre guillemets social, et en externe, etc. Et donc ça nous conduit en fait à opposer effectivement. À dire que ce qui fonde le public, au fond, la notion de public, c'est la définition de droits fondamentaux. C'est une délégation forte, et cette délégation forte, on va ne la donner que pour les droits les plus fondamentaux, ceux qu'on estime être les droits les plus essentiels. Pour essayer de limiter les effets négatifs de cette délégation forte, on va essayer de construire une division interne de l'autorité, en fait, pour créer des check and balance, enfin des contre-pouvoirs dans le système de droit, enfin dans le système d'autorité publique, et donc on applique des principes à la Montesquieu, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, lorsque on donne à partir du moment où on constitue une délégation constitutionnelle, donc qui va fonder la notion d'ordre public, hein, de régulateur public, ce régulateur, en fait, il va y avoir deux effets importants. Le premier effet, c'est que en fait, ça a un sens de définir des droits fondamentaux en coopération avec des gens qui ont des intérêts divergents de vous. Parce que vos droits fondamentaux, vous les établissez en grande partie pour définir vos droits, pour défendre vos droits fondamentaux contre ceux qui ont aussi des droits fondamentaux à faire valoir proches de vous, qui interagissent avec vous, qui ont des raisons d'interagir avec vous. Et donc vous allez avoir nécessairement une conflictualité d'intérêts. Ce qui veut dire que l'entité qu'on va appeler le régulateur public va devoir définir en fait le bien collectif, l'intérêt général, parce que en fait on va pas plus pouvoir construire l'intérêt général à partir du moment où on aura des intérêts divergents. En fait, on aura donc pour des tas de questions un ordonnancement des préférences hétérogènes dans la population, et donc le fameux paradoxe de Condorcet s'applique, etc. La définition de l'intérêt général ne peut pas émaner de la sommation des intérêts individuels. Donc, vous donnez une légitimité nécessairement à ce régulateur public pour définir des droits fondamentaux. Alors qu'évidemment, on n'est pas du tout dans la même logique lorsque, au fond, on donne des délégations faibles. Quand on donne des délégations faibles, en fait, on donne des prérogatives très limitées à un régulateur qu'on va qualifier de privé, qui, en fait, fournit simplement un espèce de service de coordination à des membres aux membres d'un club, et qui n'a pas du tout, justement, à construire l'intérêt collectif, et qui va simplement, avoir une délégation pour gérer des ressources collectives, qui peuvent être des ressources de coordination, créer un ordre collectif dans des domaines où en fait il y a convergence d'intérêts des individus, puisque ce domaine est restreint et on peut se mettre d'accord simplement sur un domaine où il y a convergence d'intérêts des individus. Donc l'intérêt de ça, c'est que et par ailleurs, bon, les régulateurs privés vont être en concurrence les uns avec les autres, puisqu'ils n'auront pas de monopole en fait d'une délégation très large, et donc leur délégation sera toujours soumise à concurrence, à la fois parce que les agents peuvent changer le titulaire de la délégation assez facilement, et parce que le régulateur privé. Les régulateurs privés peuvent éventuellement être en concurrence les uns avec les autres. Alors cette séparation assez simpliste, je le reconnais, de ce qui est l'essence du public et l'essence de la régulation privée est assez utile pour essayer de penser ce qui se passe. Alors je suis désolé, je vais passer à des transparents en anglais. Ce qui se passe lorsqu'on est en train de réfléchir aux régulations qui se développent dans le contexte international. Et là, en fait, ce qui est intéressant, pour faire vite, hein, parce que j'ai largement épuisé mon temps de parole, c'est que lorsque vous regardez ce qui se passe à l'intérieur des États-nations qui se sont constitués à partir du, disons, XVIIe siècle pour la sphère occidentale, etc., ce qui s'est passé autour de la construction de ces États-nations, c'est qu'il y a effectivement construction d'un ordre public qui a pris le pas sur les ordres privés, donc qui surplombe les ordres privés, et qui a une légitimité parce qu'il est le représentant de l'intérêt collectif pour contrôler les ordres privés. Et comme il a une légitimité notamment pour définir l'intérêt général, etc., qui est lié notamment à la constitutionnalisation en fait de la délégation qui existe avec les citoyens, il a une capacité à la fois en matière de légitimité et en matière de force pour contrôler les institutions privées qui rendent des services aux citoyens, etc. Et donc il y a une certaine logique de l'organisation, et il peut y avoir une certaine confiance dans les cadres institutionnels puisque in fine on sait que les institutions privées vont être soumises à un contrôle sera celui de l'intérêt général. Alors que dans le contexte international, dans le contexte global aujourd'hui, en fait, on n'a plus cela, parce qu'il y a à la fois des organisations intergouvernementales et des organisations internationales privées qui définissent des ordres, mais ces ordres, en fait, ne sont pas légitimés par les agents individuels, par les agents économiques, parce que ces entités ne disposent pas de délégations constitutionnelles fortes. De délégations constitutionnelles. Alors, l'un des problèmes, c'est que... là où il y a problème, c'est qu'on a besoin de régulations qui s'organisent au niveau international, pour plein de raisons, mais notamment parce que beaucoup de domaines, en fait, aujourd'hui, de régulation, dépassent très largement le domaine des États-nations, que ce soit les problèmes de biens collectifs, là, vous prenez l'environnement, etc., ou que ce soit les problèmes de type gestion, en fait, des échanges, etc., puisque là aussi, vous avez des marchés qui s'organisent au niveau global, etc. On a besoin d'ordre international. Cet ordre, il n'est pas nécessairement global, hein, il peut être européen, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais ici, il n'y a que des délégations faibles, soit par les agents privés, soit par les États, qui délèguent de manière faible des capacités de régulation à des institutions internationales publiques ou privées. Et ces institutions internationales publiques ou privées, elles, n'ayant pas de délégation forte, elles n'ont ni la légitimité, ni les moyens de mettre en œuvre les régulations. Et donc, notamment, vous avez aujourd'hui, autour des États-nations, des capacités fortes de veto de facto, c'est-à-dire de refus d'implémentation des régulations collectives. Donc je vais m'arrêter là, malheureusement, malheureusement, heureusement pour vous peut-être, mais je vais m'arrêter là, mais l'idée c'est que, si je résume ce que je voulais dire avec mes 40 dernières diapositives, l'idée il est effectivement nécessaire de réfléchir sur les raisons, sur les éventuels en anglais drivers, donc les éventuels leviers, merci, qui permettraient en fait de construire des délégations fortes à un niveau international, donc international ou global, sachant que un des problèmes, c'est que le processus de constitutionnalisation en fait est un processus qui est marqué par des effets de seuil, des effets de pass dependence, hein, de dépendance du sentier, et des effets d'agrégation très forts, ce qui fait qu'aujourd'hui, les États-nations, effectivement, restent les seuls à disposer d'une légitimité forte pour mettre en place, en fait, des régulations collectives qui tiennent compte de l'intérêt, enfin, d'un certain intérêt général, hein. Après, on peut revenir sur la manière dont se définit l'intérêt général. Mais en tout état de cause, ce qui est certain, c'est que les organisations internationales, publiques ou privées, elles sont totalement dénuées de la capacité de définir, de la légitimité de définir l'intérêt général et donc d'imposer des régulations collectives. Je suis actuellement en train de travailler avec un certain nombre de collègues sur ce genre de questions. Et en fait, on essaye de montrer que, effectivement, à la fois, il y a des facteurs de verrouillage autour des États-nations. Ces facteurs de verrouillage, c'est que, effectivement, les États-nations ont construit historiquement, mais finalement au cours d'une période relativement récente, une légitimité pour définir le cadre, pour définir l'intérêt général, ce qui leur donne leur légitimité pour contrôler l'ensemble des régulateurs, supra ou infranationaux aujourd'hui, d'une certaine manière, d'avoir le dernier mot dans la régulation. Mais il existe aussi un certain nombre de facteurs qui sont notamment la construction de solidarité au niveau international, soit des solidarités autour des questions de biens publics globaux, soit des solidarités autour des besoins du développement des échanges, qui font que effectivement il y a une dynamique où petit à petit peut se constitutionnaliser à travers différents processus qu'on peut essayer d'analyser, peut se constitutionnaliser un nouveau contrat en quelque sorte à un niveau international, ou de nouveaux contrats à un niveau international. Et c'est effectivement la raison pour terminer par une pirouette sur la confiance, pour quand même en parler un tout petit peu. Effectivement, la défiance qui existe aujourd'hui autour des institutions, et particulièrement en Europe et particulièrement en France autour des institutions, c'est, mais bon, la Belgique est bien placée aussi, je pense, hein, sur la défiance institutionnelle, est liée en fait à cette absence, enfin, au décalage très fort qui existe entre le besoin de régulation à des niveaux, alors, soit très globaux, soit très infra national, hein, le fait que c'est construit donc autour de l'État westphalien, puis autour des États constitutionnalisés, autour des idées du siècle des Lumières, un seul lieu de construction de la légitimité, enfin de la construction légitime de l'intérêt collectif, alors que évidemment il faut déplacer ces lieux aujourd'hui, et que évidemment l'intérêt c'est pas simplement de le dire, mais c'est d'essayer de penser comment on peut les déplacer. Voilà. Mais je pense que les analyses historiques sur la manière dont ça s'est construit permettent justement d'essayer de le faire, et il y a des papiers qui vont arriver bientôt sur ce genre de choses. Il y en a d'ailleurs un très intéressant que j'aurais signalé qui a été publié enfin, sous forme de working paper en décembre 2006 par Wallis, North et Weingast, hein, où ils essayent de faire une histoire des institutions humaines depuis 10 000 ans. Bon, alors évidemment, ça fait hurler tous les historiens, etc. Mais au moins, vous avez l'histoire de l'humanité en 50 pages, ce qui est quand même pas mal, hein, il faut bien le reconnaître. Et avec deux collègues, on essaye de faire à peu près la même chose, mais on va moins loin. Hein. Non, on fait 60 pages et simplement pour aller 5000 ans. Non, allez, 3000 ans. Allez, c'est raisonnable.
Voilà, donc on a dépassé un peu le temps, ça vous en est aperçu tous. Hein. Je vous propose quand même de prendre 5 minutes pour des questions pour conférencier. Ensuite, on fera un petit break. Bien mérité, après cet exposé dense, qui nous a fait voyager, non pas dans 5000 ans de pensée théorique sur la confiance, mais quand même dans des domaines, des registres assez variés. Donc voilà, je vous propose de poser vos questions si vous avez des questions.
Oui. Vous avez donc présenté au départ un concept de confiance économique qui est plus une confiance, qui serait une défiance de la défiance. Cependant, à un moment donné, vous avez parlé des trois sources de la confiance. Bon, peut-être que c'est une fausse question ce que je vais poser, mais où à la fin du slide, vous avez passé dessus, vous avez noté le mot solidarité de réseau. Et encore à la fin de votre exposé, vous aussi revenez le temps de la solidarité. Je ne sais pas si c'est une vraie question ou pas, mais s'il n'y a pas un petit paradoxe entre cette vision de la confiance comme une défiance de la défiance, et pouvoir peut-être expliquer d'abord ce que c'est que cette solidarité de réseau, plus en détail, comme ça, je ne sais pas.
Oui.
C'est quoi les solidarités?
Il faudrait que je retrouve la slide, mais bon, non, mais pour aller très vite, pour essayer de vraiment d'aller vite, pendant très longtemps, les économistes, au fond, ils ont essayé d'expliquer la confiance à partir uniquement de l'analyse de l'échange. Est-ce que je vais être trahi dans l'échange ou pas, etc. Et en fait, au fond, ça devient relativement intéressant de penser la confiance à partir du moment où on sort uniquement de la notion d'échange et où on est dans la production conjointe. D'accord ? En fait, mon exemple de contrat, hein, où la notion de confiance était utile, au fond, c'était la construction conjointe d'une innovation, etc., etc. Donc le contrat et la confiance se combinaient précisément dans une logique de construction collective, d'accord. Et au fond, si on passe à des raisonnements, si je reviens à mes histoires d'institutions publiques et privées, au fond, les institutions privées elles ne peuvent avoir qu'une seule fonction, en quelque sorte, c'est de gérer au fond de l'échange, c'est de faciliter l'échange. d'accord, y compris quand on est, enfin, puisque finalement la production d'un bien club, c'est de l'échange. Enfin, c'est de l'échange. C'est-à-dire que tout le monde retrouve en fait ce qu'il a mis dans un dispositif collectif. Alors que précisément, ce qui va faire la spécificité du public à cause de la spécificité du contrat de délégation fort, c'est la construction de cet intérêt général, etc., qui ne peut en aucune manière être ramené à la somme des intérêts individuels, et donc à l'intérêt individuel facilement, en quelque sorte. Voilà comment je ne sais pas si je réponds à la question, mais...
Ça
en ouvre plein d'autres. Voilà. Désolé. Non.
Par rapport à la fin de l'exposé, moi, je voulais poser une question par rapport à ces constructions institutionnelles, supranationales, etc. Délégation forte, délégation forte. Est-ce que, dans les observations et dans les travaux que vous avez faits, est-ce qu'il y a une espèce de corrélation entre des constructions supranationales qui se font plutôt mieux, plus facilement, enfin, je veux dire, plus légitimes, dans des domaines où les trois fondamentaux sont presque non négociables. Je pense par exemple au tribunal pénal international, on peut dire c'est quand même une délégation de partie de la justice à l'instance supranationale. Là, parce que les crimes contre l'humanité, c'est assez strictement défini, etc., que dans d'autres domaines, la notion même de droit fondamental, de bien public, par exemple, d'intérêt général, est une notion extrêmement. On a vraiment des difficultés à s'accorder sur ce qu'est durable, sur ce qu'est là. Est-ce qu'il y a comme ça une.
Je ne serais pas aussi optimiste. Je ne crois pas du tout, par exemple, qu'il y a des définitions communes, acceptées, etc., des droits fondamentaux, justement, tels que ceux qui sont. Gérés par les fameux tribunaux pénaux internationaux. Les tribunaux pénaux internationaux, ça va bien quand il s'agit des petites nations sous-développées ou arriérées, etc. Mais quand il s'agit du comportement des États-Unis, justement en manière de respect des droits fondamentaux des individus, il n'est plus question de droits fondamentaux des individus. Et dans tous les. C'est pas la peine de faire un dessin. Je crois que, ça va être un des derniers éléments qui va être éventuellement. S'il y a un jour une constitution mondiale, on a un peu de temps, ça sera sûrement un des derniers éléments qui sera inclus, parce que ça, aujourd'hui, il y a une très forte logique de construction par les individus, de construction de cette délégation forte entre les individus et les États de leurs droits fondamentaux, et notamment dès lors qu'il y a des systèmes constitutionnels forts qui protègent relativement bien les droits fondamentaux des citoyens. Dès que les droits des citoyens sont mal protégés, parce que justement il n'y a pas de délégation constitutionnelle bien établie, et que donc on a des régimes tyranniques divers et variés, effectivement, là les citoyens sont prêts à essayer de passer à un autre, à déléguer ailleurs. Mais dans les pays, justement dans les pays où la constitution des droits fondamentaux a été, est fortement protégée, il y a un effet de verrouillage fort. Alors d'autant plus que, j'ai pas eu tout le temps de l'évoquer, mais d'autant plus que en fait, il y a une logique qui est d'étendre les droits fondamentaux. Il y a une espèce de demande infinie de droits fondamentaux. Donc les citoyens ont une espèce de demande quasiment infinie. Donc c'est le droit à l'existence, mais ensuite c'est... ça va être les droits sociaux, j'en passe des meilleurs, etc. Y compris à la fin le droit que mon voisin ne me fasse pas la tête, j'en passe des meilleurs. Donc les droits fondamentaux, ça peut s'étendre très fort. Il y a une logique de la part du souverain de d'accepter des extensions de droits fondamentaux pour justement, dans une logique de construction dynamique de cette relation de confiance avec les citoyens, d'augmenter en fait la somme des droits fondamentaux qui est protégée. Et donc, du coup, comme les droits fondamentaux deviennent verrouillés les uns avec les autres, deviennent liés, puisque les droits aux régulations macroéconomiques, par exemple, sont des droits qui sont progressivement apparus après la Seconde Guerre mondiale, etc., pour garantir les progrès sociaux, etc., etc. Donc un certain nombre de droits sociaux. Donc ces droits deviennent très difficiles à démêler. C'est en défaisant petit à petit la pelote et en donnant à des entités supérieures des entités qui vont agir à des niveaux d'agrégation supérieurs. Éventuellement ça peut marcher, mais ça on voit bien que ça coince. L'exemple européen est un bon exemple. Et en plus, il y a des stratégies éventuellement des citoyens, surtout de refuser. L'exemple du non français et de la gauche française, d'une partie de la gauche française en tous les cas, l'extrême gauche française, sur les. Le refus qu'il y ait des régulations économiques à un niveau un peu agrégé, bon, c'est un bon exemple de ça. Avant qu'il y ait...
D'autres questions ?
Par rapport aux régulateurs publics, en fait, qui est là pour garantir les droits fondamentaux, je me demandais s'il n'y avait pas un problème de confiance vis-à-vis des institutions qui parfois pouvaient naître de la réalité institutionnelle qu'on connaît nous en Belgique, c'est-à-dire de la nécessité d'articuler différents niveaux de pouvoir dans certaines matières. Enfin, je ne sais pas si vous avez évidemment les qualités sont peut-être
Non,
mais moi j'ai l'impression que ça rend les choses parfois plus difficiles dans la confiance des agents par rapport aux institutions publiques.
C'est-à-dire que il y a un problème effectivement dont j'ai pas trop parlé, enfin j'en ai parlé en creux en quelque sorte, c'est que la délégation publique, la délégation forte peut se donner en fait à des entités qui vont agir à différents niveaux d'agrégation en termes donc de juridiction, disons-le comme ça c'est bon. Donc sur des zones géographiques ou des populations, des communautés plus ou moins étendues, disons. Un système institutionnel optimal, c'est un système qui n'existe pas dans nulle part. Un système institutionnel optimal, c'est un système où on peut déléguer les droits de régulation au bon niveau en fonction de l'étendue du problème, scope en anglais, d'accord. Donc, donc effectivement, l'un des problèmes, c'est que, les entités, c'est que souvent c'est ce que j'ai évoqué encore à l'instant d'une certaine manière, c'est que les entités publiques, elles se sont construites historiquement à travers des processus qui sont dépendants du processus de constitution historique. Qui ne veut pas du tout dire que du coup on a des autorités institutionnelles organisées au bon niveau et que du coup parfois effectivement ça accentue ces problèmes de crédibilité en fait de l'ensemble de la délégation, c'est-à-dire de la délégation des individus à l'autorité, parce que les individus vont jouer entre les autorités, et de la capacité de l'autorité à réguler ce qu'elle est censée réguler, parce que en fait elle a peut-être pas du tout le bon niveau de la capacité en fait à réguler les problèmes qu'elle est censée réguler. Mais en même temps, c'est un problème que j'ai évoqué, puisque fondamentalement, effectivement, aujourd'hui, le problème de crise de confiance dans les systèmes institutionnels, notamment en Europe, c'est très lié justement à ce décalage complet qui existe entre, en gros, les cadres institutionnels publics existants la nature, enfin, la nature des problèmes à réguler. Bon, alors, il y a des pays qui sont trop centralisés, d'autres trop décentralisés. Et par ailleurs, tous les pays n'ont pas assez de délégations internationales fortes. Voilà. Donc, au niveau continental, au niveau global, enfin, etc.
Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Enfin, je vous propose de nous arrêter 5 minutes juste pour boire un petit café ou un jus d'orange et puis on reprend le circuit.